M.
Le goût de M.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Cette semaine, c'est une histoire de radio, de folle passion pour la radio comme outil de rencontre, de transmission, mais aussi comme écriture, comme matière charnelle, sensible, qu'on malaxe et dans laquelle on ne parle jamais tout à fait comme dans la vie. Cette semaine, c'est le goût de Rebecca Manzoni, une des voix les plus célèbres de France Inter. Passionnée de culture, de musique, de BD, grosse bosseuse, tendance perfectionniste, Rebecca Manzoni a présenté et ou conçu de nombreuses émissions à l'antenne ces 25 dernières années. Éclectique ou totémique, bien sûr, ou pop and co, dans laquelle elle disséquait un tube et le faisait entrer en résonance avec l'époque et la société. Depuis la rentrée, elle fabrique toujours totémique, une fois par semaine, le vendredi, mais a également repris les rênes d'une émission phare de France Inter, une émission dans laquelle des goûts et des couleurs, on discute justement. C'est le masque et la plume, jusqu'alors piloté par Jérôme Garcin. Alors que signifie aujourd'hui une émission de critique ? Quelle place celle-ci occupe à l'heure des réseaux sociaux ? Pour en parler, ainsi que de son goût et de son parcours, direction Saint-Ouen, une petite rue aux immeubles fatigués, tout près des puces, on y est.
Oui, bonjour, Rebecca Manzoni ? Oui, c'est Géraldine Saratia, bonjour. On est en bas de chez vous, voilà. Ouais. Ça. Ok, bah c'est bon.
Ouais,
bonjour.
C'est là. Bonjour, bienvenue.
Merci.
Entrez.
Merci.
Voilà, on va monter les escaliers.
Super. Voilà. Ah, il y a un chat.
Voilà.
Tu viens nous accueillir.
Ouais, ça va, vous n'êtes pas allergique au chat ?
Non, pas du tout.
Ok. Ouais. Bah, c'est Kira, parce que chat, Kira, et oui. Donc c'est par là.
Bon alors, c'est un espace qui vous ressemble ici ?
Oui et non.
Ouais.
Oui et non, c'est un espace qui ne ressemble pas qu'à moi, hein, qui ressemble à toute la famille, à savoir l'homme avec qui je vis et nos deux enfants.
Ouais.
Donc y a des dessins d'enfants encadrés, il y a des photos de famille, il y a beaucoup de livres, un petit bordel, mais là...
Beaucoup
comme...
de lumière.
Ouais,
aussi.
Ouais.
Ouais.
Mais comme vous veniez, j'ai rangé.
Et pour quelqu'un qui écoute, vous diriez que ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à un grand appartement de famille à Saint-Ouen,
ouais.
Dans une petite copropriété avec des bonbons en guirlande fabriqués par ma fille par Halloween qu'on n'a pas détaché.
Ouais.
Un canapé, on a un petit souci canapé que la chatte a quasi désossé. Voilà, donc oui, ça nous ressemble, je dirais.
On s'est avancé dans la grande pièce à vivre de cet ancien bâtiment industriel, très haut de plafond, agréable avec ses grandes ouvertures. Au fond, une bibliothèque. On s'est installé sur la gauche, autour de la table à manger. Face à nous, une petite terrasse où il doit faire bon déjeuner ou dîner au beau jour. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
Les gnocchis de ma grand-mère. Donc ça passe par la cuisine.
Votre grand-mère italienne ?
Ouais, ma grand-mère Rina. Et le goût de mon enfance, c'est ça. C'est le goût du dimanche midi, c'est RTL allumé avec sur l'Italie. Et puis la planche en bois qui recouvre toute la table de la cuisine. Et puis elle faisant des saucissons de pâtes comme ça qu'elle coupe. J'entends le bruit de la lame sur le bois et à faire rouler les gnocchis dans la râpe à fromage renversée. Enfin, c'est ça, le goût de mon enfance, c'est ça.
Elle habitait près de chez vos parents, cette grand-mère ?
Ouais, une trentaine de bornes. Elle habitait dans la cité de Joudreville, là où elle a atterri. Enfin, elle a atterri. Je suis même pas sûre qu'elle soit venue en avion, d'ailleurs.
Ouais.
Je suis même sûre que non. Mais ouais. Là où elle est arrivée dans les années 30, elle arrivait de Vicence. Elle venait voir son frère. Elle était censée rester 15 jours. Et puis, elle a resté plus de 60 ans.
Mais en même temps, elle a jamais vraiment appris à parler français, ce que vous disiez.
Non. Bah non, parce qu'en fait, justement, comme elle vivait dans une cité minière, les voisins du dessous étaient italiens,
ouais.
ou portugais ou espagnols. Et quand il était question d'aller acheter son pain ou d'aller chez le boucher, ben tout le monde la comprenait. Parfois c'était des Italiens eux-mêmes, ou parfois ben les commerçants avaient tellement l'habitude,
ouais.
que ça passait quoi. Elle se faisait comprendre.
Donc vous le disiez, vous avez grandi, donc c'était en Moselle, c'est ça ?
En Meurthe-et-Moselle.
En Meurthe-et-Moselle.
Dans le 54.
Voilà. Ça ressemblait à quoi ? C'était, vous avez grandi dans une maison, un appartement, ça ressemblait à quoi ?
Ah non, moi j'ai grandi en fait dans des logements de fonction, parce que mon père était dans l'éducation nationale,
ouais.
dont il a gravi tous les échelons pas à pas. À chaque fois que mon père avait une mutation, il y avait un logement attenant dans lequel on se retrouvait avec la tapisserie déjà là, et puis on mettait nos meubles dedans et voilà quoi.
Si vous décrivez le style de justement de l'endroit dans lequel vous avez grandi, c'était plutôt fonctionnel. Enfin, vos parents, ils y accordaient de l'importance à leur intérieur.
Oui, complètement. Ouais. Ils avaient le goût de comment ils appelaient des meubles anciens. Je suis quelqu'un qui a dormi, vous savez, dans les lits bateaux là, des trucs en bois avec des sommiers. Où il fallait quasiment faire du saut à la perche pour monter dessus, quand on est petit, tellement c'est haut. C'était une déco plutôt perso.
Ouais. Votre père, vous le disiez, donc alors Fabrizio,
ouais.
proviseur. Si vous pensez à ses goûts, vous diriez qu'il était intéressé par quoi ?
Il s'intéressait beaucoup aux sciences humaines. Mais après, pour ce qui concerne l'esthétique, c'était plutôt la musique, parce qu'on allait très peu au cinéma, pas du tout au théâtre. En revanche, il y avait de la musique dans la maison.
Il aimait quoi ?
Vachement la chanson française. Donc moi, j'ai quand même bouffé du Brel Brassens Ferré à haute dose le dimanche soir. En plus, je suis fille unique, moi. Donc, c'est vrai que les goûts de mon père ont pas mal compté au départ. Et au bout d'un moment, tout ce répertoire-là, j'en pouvais plus, quoi. Enfin, surtout Ferré, je pense, que je trouvais quand même particulièrement pénible à écouter. Ça a changé ensuite, hein, mais le dimanche soir, Ferré éructant dans le salon avec le jour déclinant, c'est c'est raide. Et sinon, il adorait aussi la bossa nova. Je pense que, je sais pas, petite, j'ai dû écouter 450 fois l'album Stan Getz, Joao Gilberto, parce que ça tournait en boucle sur la platine. La chanson française aussi... ça que j'ai vraiment jamais cessé d'aimer, c'est tout le répertoire de Pierre Vassiliou. Et puis toute la musique, évidemment la pop des années 60, les Beatles, Steely Dan, toutes ces choses.
Ouais. Votre mère, elle aimait la musique aussi ou...
Non, pas spécialement.
Elle est institutrice, c'est ça ?
Ouais.
Donc les deux dans la fonction publique, dans l'éducation nationale.
Dans l'éducation nationale, ouais.
Et elle aimait quoi ?
Ma mère a plutôt affirmé ses goûts à la mort de mon père, curieusement. Donc, de fait, elle va, je sais pas, elle va peut-être 3 fois par semaine au cinéma, elle s'est mise à lire.
Mais ça, c'est aujourd'hui, vous diriez, enfin, ces dernières années. Mais quand vous étiez plus jeune, vous connaissiez moins ses goûts, enfin, elle était plus en retrait.
Ouais. J'aimerais beaucoup faire un podcast sur ma mère, d'ailleurs. Parce que je trouve
c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée, en même temps, c'est extrêmement convenu. Mais je pense que c'est un. Ça raconte une génération. Cette génération de femmes nées en 46, qui a vécu une histoire d'amour très très forte, au point de s'y dédier totalement, qui a pas du tout vécu les enjeux du féminisme, mais en rien, ni même des enjeux sociaux ou politiques de premier plan, qui était vraiment tournée vers son foyer, en fait.
Ouais.
Et qui, petit à petit, s'est affirmée d'une certaine façon.
Si vous pensez à l'époque où vous avez grandi, le goût Manzoni, justement, qu'est-ce qui était important dans cette famille ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qui...
Le travail bien fait. Le goût du travail bien fait.
C'était important.
Ah ouais. Moi, j'ai vraiment grandi dans cette idée, quoi. D'être consciencieux. C'était ce goût-là plus qu'un goût esthétique, en fait. Parce que le travail tenait beaucoup de place dans la vie de mes parents. Dans la vie de mon père, notamment, puisque... Comme on vivait dans un logement de fonction, sur place, en fait, sur son lieu de travail, et ben, il y avait finalement assez peu de frontières entre le bureau et les couloirs du collège ou du lycée dans lequel il travaillait. Et je pense que c'est lié, j'en suis certaine, même à un parcours qui a beaucoup cru à la méritocratie.
Et est-ce que la culture, c'était important ? On pensait que c'était important ?
Oui, la culture, c'était important, mais c'était plus comme notion.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, l'idée de la culture, c'est important. Après, il y avait des livres à la maison, mais ils n'étaient pas forcément ouverts. Mais c'était bien de lire,
ouais.
Ce qui n'est pas la même chose que prendre du plaisir à le faire.
Oui.
C'est vrai que moi, il y avait la collecte des Victor Hugo reliés cuir qui avait été commandée par correspondance. Il y avait aussi Maupassant, collection dont j'ai hérité. Mais quand j'ai hérité de ça, oui, ils n'avaient jamais été ouverts, ils sentaient bon. Ils étaient neufs, c'est comme si les pages étaient encore un peu collées. Mmh. Mes parents lisaient beaucoup plus la presse, le Canard Enchaîné, et la presse magazine,
oui.
Plus que de lire des romans ou ce genre de choses.
Vous n'alliez pas trop au cinéma ensemble ou des choses comme ça ?
Non, pas beaucoup. Ou alors pendant les vacances scolaires.
La plus grande habitude, c'était la radio ?
C'était même pas une habitude, c'était tout le temps en fait.
Enfin, mais tout le temps la radio chez vous ?
Bah, ouais. Oui, beaucoup quand même. Ouais. Oui, dans la salle de bain, dans la chambre, dans la cuisine... Et moi, encore une fois, étant fille unique, ouais, ça a compté assez rapidement, en fait, la radio. Mais non, l'habitude, c'était quand même la musique, en fait. C'était quand même mon père écoutant beaucoup de musique, souvent très fort, sur ce magnéto à bande, là.
Ah, celui qu'on voit là-bas, dans le salon ?
Ouais. Je ne sais pas comment il avait.
Il avait ça ?
Ouais.
C'est incroyable, quand même.
Et en fait, c'est génial, parce que... Nous, il nous arrive parfois de copier des albums sur les bandes magnétiques et de les écouter par ce biais. Et donc, il y a tous les boutons qui s'allument, les bandes qui défilent.
Ouais.
C'est hyper beau.
Il y avait un plaisir de manger dans votre famille ?
Oui, un plaisir de manger. Ma mère adore cuisiner. Et je me souviens, la première fois que j'ai mangé du foie gras, mes parents avaient... Enfin, c'était un cérémonial, quoi. Il y a un goût de la bonne chair, ouais, bien sûr. Mmh. Mes parents, ils ont vécu assez longtemps en Bourgogne. Et de fait, mon père s'est vachement intéressé au vin.
Mmh.
Et grâce à lui, on a bu des vins géniaux. On nous embarquait dans des caves, tout ça. Moi, j'aime pas particulièrement en faire, mais j'aime bien, bien manger.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Où est-ce qu'on est, Rebecca, ici ?
Alors là, on est dans le salon, salle à manger, bureau, bibliothèque.
Il ressemble à quoi ? C'est une grande pièce.
C'est une grande pièce.
Ouais.
Il y a un canapé déchiqueté un peu par le chat.
Ouais.
Il y a une cabane que ma fille a construite à partir de couvertures, voilà. Juste derrière,
ouais.
Il y a un tipi auquel elle a ajouté des couvertures avec des pinces à linge et des chaises. Et j'ose même pas regarder ce qu'il y a en dessous parce que je vois qu'elle a mis un petit magnéto enregistreur, des bouquins.
C'est peut-être des émissions. Hein,
peut-être. Je sais pas. Mais voilà.
Là, il y a des vinyles. Vous écoutez toujours des vinyles ? Ouais.
Oui, on a gardé plein de CD. Et encore, on en a viré qu'on avait l'un et l'autre en double. Mais oui, on écoute pas mal de musique. Soit sur les plateformes, soit par vinyle, soit par les bandes magnétiques en copiant des albums sur le magnéto de mon père. Ça, c'est un ours, on appelle ça comme une sorte de... Enfin, c'est une miniature.
Ouais.
C'est la reproduction d'un ours conçu par un sculpteur animalier qui s'appelait Pompon. C'est un ours qui figurait, qui figure toujours, dans un des jardins de Dijon. Place d'Arcy, précisément, si vous y passez, allez-y, c'est un très beau jardin. Et il y a cette sculpture, et mon père et ma mère emmenaient mes filles dans ce jardin, et la tradition était de monter sur l'ours, de l'enjamber. Et je pense qu'on a une dizaine de clichés de mes filles juchées sur cette bête, avec mon père à côté, avec son chapeau. Et des années après la mort de mon père, ma mère m'a offert cette reproduction de l'ours. Donc ça fait un peu partie de l'histoire familiale.
Musique.
si vous pensez à vous maintenant, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous ?
La musique, la radio, d'une certaine façon, parce que j'en écoutais beaucoup, et que ça a pas mal façonné mon imaginaire, en fait, et ça m'a donné accès à énormément de choses.
Vous dites que les chansons qu'on écoute, ça nous façonne.
Ah oui, j'en suis sûre de ça. Parce que ça façonne une sensibilité. Je pense que quand on a écouté Patti Smith, gamin, on n'est pas la même fille ni le même garçon que quand on ne l'a pas écouté, en fait. De la voir androgyne avec tenant une veste sur l'épaule, pas apprêtée, tout ça, ça... De voir Blondie, hyper insolente, en jouant tous les codes de la féminité. Enfin, j'ai un discours un peu trop analytique, j'avais pas ça à l'époque.
Oui, mais on peut en percevoir des choses.
Ouais, hein. C'est de l'ordre de la sensation.
Oui, oui.
Et oui, je suis sûre. Moi, j'ai été très vite sensible à ces voix-là.
Oui. Et également à des émissions de radio, c'est-à-dire pas que la musique, c'est-à-dire les personnes qui faisaient la radio, ça vous suiviez, vous aviez des...
Oui, bien sûr. C'était des voix autant qu'une écriture. Donc c'était Chris, c'était Mermet, c'était Le Noir. C'était une écriture radiophonique aussi qui me plaisait. C'est pareil, là je l'analyse après coup, mais...
Ouais.
Ouais, une façon de parler, une... On parle pas à la radio comme on parle dans la vie. C'est écrit, mais c'est une zone d'écriture qui est très, très singulière, hein, vraiment entre l'écrit et le parler. Et ayant beaucoup écouté la radio et m'étant fait énormément de films en l'écoutant, en fait. Parce que c'est un moteur à imaginaire, la radio, le son, les voix. Ça a déterminé énormément de choses.
Et vous aviez un ghetto blaster ?
Ouais, et d'ailleurs, il est là au fond, un peu dans le bazar, là.
Ah
ouais ? Je crois que je m'étais fait offrir ça quand j'avais une quinzaine d'années. Et comme ma fille va avoir 15 ans, on va le lui offrir. Donc...
C'est ça qui se transmet dans cette famille.
Ouais, ouais.
Je lisais que vous disiez que vous aviez grandi donc en Meurthe-et-Moselle, dans cet ancien bassin sidérurgique un peu sinistré, que il y avait l'idée de, enfin, de small town girl, quoi, de se barrer très vite,
et que
la radio c'était la porte ouverte vers un ailleurs aussi. Et l'idée de Paris, elle est venue assez vite pour vous.
Ouais. Ben oui, on a l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'était là que ça se passait, quoi. Même si j'ai absolument pas les épaules pour avoir une vie nocturne parisienne, pas deux minutes, quoi. Mais ça n'empêche pas de le fantasmer. Je m'intéressais vachement à toute l'actualité quand même du cinéma, à l'actualité culturelle en général, je m'y intéressais quand même pas mal.
Ouais.
Et bon, voilà, j'avais l'impression que c'était là que ça se passait, que ça se passait, le ça, c'était tout, en fait. C'était la vie intense, c'était rencontrer des gens, c'était bouger, c'était voir des choses, c'était... Oui, ça me faisait rêver, c'est sûr.
Et donc finalement, vous allez venir à Paris vers 17 ans, c'est ça? Pour faire une prépa, une cocaine?
Ouais.
Quand vous arrivez là, comment ça se passe?
C'est difficile parce que je trouve que Paris n'est pas une ville aimable d'un premier abord. Je me suis retrouvée dans une classe prépa avec des gens venus des quatre coins de la France, qui, pour la plupart, avaient des réflexes que je n'avais pas du tout. C'est-à-dire, justement, le rapport à la lecture, c'était une évidence, le plaisir de lire, tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là, en fait, même un peu plus tard. Donc, j'ai l'impression d'être quand même très en retard et d'être un peu déphasée. Moi, j'étais assez seule au départ, en fait. On découvre une ville qui est immense, où on n'a aucun repère. On arrive dans un univers où la culture est une évidence. Alors que chez moi, la culture, c'était bien, ce qui n'est pas du tout pareil. Deux gens, deux personnes qui avaient l'habitude d'aller au théâtre, qui avaient l'habitude de lire la presse, qui avaient l'habitude d'aller au cinéma. Enfin, tout ça, c'était des trucs...
Ça vous complexait ou vous avez embrassé ?
Ouais, quand même. Mais ouais, ça a duré quand même quelques temps, cette sensation de décalage. Et après, je suis entrée à Sciences Po, où j'ai fait une seule année.
Ouais.
Et là, pour moi, c'était vraiment la planète Mars, pour le coup.
Pourquoi ?
Parce que je me sentais absolument pas à ma place. Des codes, des refs qui n'étaient pas du tout les miennes.
Et à votre place, justement, vous allez commencer à avoir envie de... Enfin, vous y sentir ou envie d'y aller, c'est quand vous avez visité la Maison de la Radio, justement. Enfin, vous avez fait des stages, mais vous avez eu l'occasion de visiter la Maison de la Radio. Vous vous êtes dit, ça, c'est un endroit dans lequel j'ai envie d'aller.
J'ai réussi à visiter la maison de la radio parce que je travaillais dans une association, j'étais bénévole dans une asso et il y avait une femme qui était ingénieure du son à la maison de la radio qui m'a fait visiter. Je me suis démerdée pour avoir un stage et tout ça. Et après, oui, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer Olivier Nantot, Nathalie Goutal, Gilles Carretero, Jean-Michel Montu, qui m'ont fait comprendre que... Bah, que j'étais la bienvenue, quoi.
Ouais, ouais, parce que vous avez fait un passage par un stage à RTL, je crois. Donc, vous avez compris que les news, c'était pas votre truc, en fait. C'était pas ça. Le hard news, c'était pas ça.
Ouais, mais en fait, j'ai commencé par faire un stage à France Inter. À l'issue de ce stage, on m'a demandé d'écrire un texte. Et Olivier Nantot a eu l'intelligence de me dire, surtout, tu fais pas un rapport de stage. Tu écris un texte, tu écris un truc à toi. Je veux que ce soit quelque chose de personnel. C'est la première fois de ma vie qu'on me demandait ça. Je sais pas, je devais avoir 19 ans. Hein.
Ouais.
Et donc, j'ai écrit un texte, effectivement, d'une trentaine de pages, que j'avais intitulé « Ceci n'est pas un rapport de stage », qui était un peu mon point de vue d'auditrice entrant dans France Inter. Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré écrire ce truc. C'est la première fois que j'écrivais quelque chose, d'ailleurs.
Ouais.
Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça a beaucoup plu à Olivier Nantot, qui l'a fait circuler dans la maison. Ça l'a poussé à me rappeler pour me ressolliciter à d'autres occasions pour travailler à France Inter. Et en fait, je suis passée à RTL à l'issue d'une école de journalisme que j'ai faite, aussi un peu pour rassurer mes parents.
Oui, à Bordeaux.
Mmh. À Bordeaux, voilà. Mmh. Et donc, j'ai fait un passage assez bref, au fond, à RTL, parce qu'effectivement, j'étais pas spécialement taillée pour le hard news, quoi. Là où j'avais ma place, c'est dans la fabrication d'émissions et dans des choses... un peu plus personnel.
Ouais, personnel et plus culturel. Tout
oui,
ça a toujours été
ouais,
lié
ouais.
à la culture, ce que vous avez fait après, puisque, donc, effectivement, vous allez revenir en 99, après en France Inter. Il y a C'est comme la radio, il y a Trafic d'influence. Vous écrivez des portraits de BDistes, beaucoup.
En fait, c'était des portraits radiophoniques. Donc,
ouais,
c'était vraiment des interviews tournées en situation, en reportage. Donc, finalement, j'ai fait ça très, très tôt. Et de dessinateur, ouais. De
ouais.
dessinateur de bande dessinée.
Ouais. Dès le départ, vous essayez de vraiment, enfin, ce qui est vraiment une chose très importante de l'écriture radiophonique, mais de donner à voir. Et
oui.
ça, ça a toujours été une constante dans votre travail.
Mmh. Ouais, ouais, bien sûr. Écrire avec du son, c'est vraiment c'est le truc qui me passionne, quoi. Fabriquer des images avec du son, avec des mots, avec des voix, avec des ambiances, avec des musiques. Oui, j'adore ça.
Vous avez fait beaucoup de portraits. C'est vrai que vous avez beaucoup été dans la rencontre, vous, avec l'exercice du portrait. Enfin, vous avez le goût de ça. Vous-même, vous écoutez ça. Vous écoutez des émissions où il y a des gens qui se rencontrent. Enfin, c'est quelque chose qui vous...
Quelque part, je suis venue à Paris pour ça, en fait. Pour rencontrer des gens. Je suis venue à Paris pour rencontrer des artistes, en fait.
Pour rencontrer les artistes qui étaient importants pour vous ou
Oui, alors là, c'était le Graal. Hein. Mais,
c'était qui? C'était Étienne Daho?
Bah ouais.
On dirait, non, Étienne Daho.
Ouais, ouais.
Je l'ai vu là-bas, il est dans votre bibliothèque. J'ai aperçu le livre.
Bah, il est dans ma bibliothèque,
ouais.
Et dans ma discothèque.
Ouais.
Et...
Vous sauriez me dire, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a autant plu et qui vous plaît peut-être toujours chez Étienne Daho?
Je le trouve très élégant, à bien des égards. J'ai lu énormément d'interviews de lui. Et en fait... C'est comme un fil qu'on tire et qui vous mène à plein d'autres disques, déjà. Parce que c'est quelqu'un qui cite énormément ses influences. Je le trouve très beau, je le trouve extrêmement sexy. Très mystérieux aussi. Et évidemment, musicalement, copieusement défricheur.
Donc vous avez produit toutes ces émissions, conçu toutes ces émissions. C'est très important pour vous, l'écriture radio. Vous avez mis beaucoup de temps à trouver votre façon ou pas?
On me dit que non, mais en fait je suis arrivée à la radio avec mon bagage d'auditrice. Et curieusement, on m'a dit que ça détonnait. Mais au fond, cette écriture radiophonique, ben je la peaufine, je l'affine, je la sculpte, je sais pas comment on dit, depuis 25 ans en fait. J'ai envie d'écrire des fictions radiophoniques, j'ai envie de faire des podcasts sur ma vie très personnelle, qui puissent, alors ma vie personnelle on s'en fout, c'est pas la question, mais qu'une histoire comme ça, individuelle, mm-hmm. puisse raconter une histoire beaucoup plus collective, parce qu'une histoire strictement personnelle n'a mm-hmm. aucun intérêt, mais si elle raconte soit une génération, soit une époque, je trouve que ça peut être intéressant, c'est ce qui peut m'intéresser dans
oui,
des chansons,
ce que vous
dans
avez
des
fait
vies,
avec les chansons,
est,
toujours.
Voilà, donc...
Ouais.
Mais cette affiner, c'est même pas affiner, mais explorer toutes les possibilités de l'écriture radiophonique, c'est un boulot d'une vie, quoi.
Votre goût à vous, votre touche à vous, vous la décririez comment ?
Je la décrirais comme une passion pour l'écriture radiophonique, en fait.
Qui s'allie d'une passion pour la réalisation, pour la fabrication.
Ouais, carrément.
Ça vous intéresse beaucoup, ça ?
Le mix, le montage. Moi, j'aime tout dans la radio, quoi. J'aime tourner, j'aime monter, j'aime écrire autour, j'aime choisir les musiques, réfléchir au rythme, à tel mot, à tel moment, pourquoi.
Et vous, justement, quand vous êtes auditrice encore aujourd'hui, votre goût, il va vers quoi ? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse ?
J'aime beaucoup écouter les fictions. Il y a des fictions autobiographiques, celle de François Perrache, que je trouve vraiment fantastique. Les fictions qu'il a écrites aussi sur 57 rue de Varennes, qui se déroulent dans un ministère avec un... C'est génial à écouter, ça. C'est extrêmement bien foutu. Puis tout le travail sur le son, le travail de Sophie Simoneau, à partir de ses messages de répondeur, un podcast qui s'intitule « Vous êtes bien chez Sophie », c'est fantastique, ça. Ça, c'est vraiment la puissance du son, de la radio, de construire un objet à partir des messages qu'elle a conservés de ses proches, ses parents, ses grands-parents décédés depuis, ses amants, son fils, ses potes. Ça raconte une histoire, ça raconte une génération. C'est le son dans toute sa splendeur, je dirais.
L'année dernière, la dernière émission de Totémique, vous étiez très très émue.
Ouais.
C'était douloureux pour vous de l'arrêter, cette émission ?
Totémique ? Ah ouais. Oui, bien sûr, ouais.
Ouais. Vous aimiez beaucoup cette émission ?
Ouais, j'aimais bien. J'avais trouvé un rythme, j'avais trouvé aussi un équilibre dans ma vie personnelle, ce qui est très important pour moi. Et je pense qu'il y avait moyen de faire un truc sur la longueur avec la version de l'émission en public, avec la version de l'émission enregistrée.
Ouais.
Il y avait vraiment moyen de développer un univers radiophonique autour de ce rendez-vous quotidien singulier.
Alors depuis janvier 2024, donc vous avez repris Le Masque et la Plume,
ouais.
Une émission historique qui existe depuis hyper longtemps. Comment on reprend une émission comme celle-là ?
On la reprend en ayant bien, bien conscience. Et si on n'en a pas conscience tout seul, on vous fait comprendre qu'il faut en avoir conscience, que c'est un héritage,
ouais.
Que c'est une institution, qu'il ne faut pas trop changer. Mais en fait, c'est plein de demandes contradictoires, en fait. C'est qu'à la fois, il faut être absolument dans la continuité. C'est vraiment le truc, le renouvellement dans la continuité.
Ouais.
Alors, vas-y, démerde-toi avec ça. De fait, c'est... Moi, j'ai abordé ça à la fois avec une forme d'inconscience et beaucoup de fébrilité. Jusqu'ici, j'avais plutôt justement inventé des formats radiophoniques à travers, soit pour la musique, à travers du documentaire comme Popenko, ou à travers Tubenko. Je faisais entendre les multipistes d'un morceau, les différentes pistes, les pistes vocales, etc. Ou à travers des portraits. Donc voilà. Et là, l'idée était d'entrer quand même dans une maison dont les fondations sont bien bien établies et avec une longévité complètement inédite dans l'histoire de l'audiovisuel français, puisque je crois que c'est l'émission la plus ancienne. Donc voilà, c'est à la fois respecter cette histoire et puis l'emmener vers autre chose. Cette autre chose, c'est forcément quelque chose qui me ressemble. Si l'émission m'a été confiée, c'est de proposer forcément ma vision de la production culturelle contemporaine. Quels sont les gens qui vont venir en parler à la tribune ? De quelle façon ? Avec quel ton ?
Votre influence, elle est là, dans les nouvelles voix que vous avez conviées, par exemple ?
Pas que, je pense.
Dans
en fait, je me rends compte...
Dans les choix des objets dont on parle ?
Bien sûr, dans le choix des objets dont on parle, à l'occasion et avec une relative régularité de vraiment faire entrer les films de genre. Ce que je faisais déjà, Jérôme Garcin, par ailleurs, mais pour ce qui concerne le théâtre, j'ai vraiment envie qu'on entende parler du stand-up, parce que j'en suis spectatrice déjà, et puis je trouve que c'est une forme théâtrale et musicale, d'une certaine façon, qui est majeur aujourd'hui, par exemple. Dans l'émission littéraire, évidemment que les auditeurs attendent de savoir ce que la tribune du Masque et la Plume va penser du dernier Marie Dariussecq ou du dernier Stephen King. Mais je trouve que c'est aussi important de faire entendre de nouvelles voix. d'écrivaine ou d'écrivain.
Donc quelque chose qui défriche, quelque chose qui est...
Quelque chose qui est vraiment entre le grand public et puis ouais. aussi un peu défricheur, dans les limites de ce que... dans le cadre de l'identité de l'émission, je dirais. Mais mine de rien, c'est une émission très écrite, en fait, Le Masque et la Plume. La séquence du courrier, là, qui dure 3 minutes, c'est très long à écrire, ce moment-là. Et c'est un vrai exercice d'écriture. La façon dont on présente les œuvres aussi. À qui on donne la parole d'abord.
Oui, votre rôle, il est beaucoup là, oui.
Ouais, mais ouais. Le rôle, il est dans le choix du programme. Donc, c'est un rôle éditorial. C'est un rôle d'écriture. C'est un rôle de rythme, d'ambiance et de ton. Et alors après, il y a énormément de choses qui m'échappent. Parce que une émission, elle ressemble forcément aussi à ce qu'on est. Elle nous raconte souvent malgré soi, au même titre qu'une interview raconte qui on est, autant que la personne qu'on interviewe, en fait.
Mais alors, ça raconte quoi de vous, Le Masque et la Plume ?
Ça raconte, encore une fois, ma vision de la production culturelle contemporaine. Le fait d'avoir, d'être à la fois dans le respect de l'identité de l'émission, ouais. C'est une émission grand public, critique, donc où la liberté de parole est absolue. Mais ça, c'était déjà ce que faisait Jérôme Garcin. Là, j'ai vraiment rien inventé. D'avoir ouais. une programmation qui soit vraiment très éclectique, qui, pour ce qui concerne le cinéma, allie à la fois les comédies grand public et les films d'auteur, les films de genre. La séquence des coups de cœur aussi est un ouais. élément important, je trouve. Moi, j'ai pas... Enfin, par exemple, je sais que certains auditeurs m'ont dit « Oh là là, mais pour les coups de cœur littéraires, vous n'avez pas cité de livre, vous citez un podcast ». Bah oui, mais aujourd'hui, on peut. Le podcast peut être un accès à la littérature. Moi, j'ai eu accès à la littérature par la radio.
Ah oui ?
Ah oui.
Comment ça ?
Bah, par des interviews d'écrivains, essentiellement d'ailleurs.
Vous me parliez du Masque et la Plume, mais vous me disiez qu'en cinéma, vous parliez à la fois de comédies très grand public et de films plus auteurs. Oui. Mais vous, en cinéma, justement, enfin, racontez-moi, c'est quoi vos goûts ?
Moi, j'ai vachement aimé, je suis allée le voir avec mes filles, j'ai vachement aimé Comme un prince, qui est une comédie grand public. Je l'ai d'autant plus aimé que, ça séduit mes enfants, que La Bête de Bonello, quoi. Je pense pas avoir de snobisme dans mes goûts, enfin... J'ai tellement fait d'efforts pour avoir l'air chic, quand je suis arrivée à Paris, justement... Il y a plein d'idées là-dedans. Il y a l'idée pour le cinéma comme pour la musique... beaucoup plus que pour la littérature, en fait. Il y a l'idée de rendre hommage à des objets modestes. Pour moi, les tubes, c'est ça, par exemple. J'adore Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, pour plein de raisons. Et il y a un point commun entre Le Loir-et-Cher de Michel Delpech et Annie Ernaux.
Ah, dites-moi, ça m'intéresse.
Bah, relisez les paroles. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Je sais pas s'il dit dîner, d'ailleurs. Enfin, c'est un gars qui retourne dans sa famille du Loir-et-Cher ouais. et qui vraisemblablement vit à Paris. Et il y a un écart qui s'est creusé entre eux dans cette chanson. Et pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a des points communs entre Annie Ernaux et Le Loir-et-Cher de Michel Delpech. Parce que Annie Ernaux, dans sa littérature, est quand même vachement imprégnée, évidemment, de la honte qu'elle a eue
ouais.
de ses origines, qu'elle s'est mise à écrire pour... Je la cite, venger sa race. Et Le Loir-et-Cher, pour moi, il y a cette idée-là, en fait. Il y a l'idée d'un éloignement de ses origines. Et cette idée qu'à un moment de votre vie, on peut s'entendre dire, on n'est plus du même monde. Et ça, c'est terrible, ça. Moi, je ne veux pas être d'un monde. Je veux être de plusieurs. Et celui d'où je viens, j'en ferai toujours partie. Et c'est pas un poids. Je pense même que c'est une force. Dans ma vie de femme et dans ma vie professionnelle, je suis sûre que le fait d'avoir un pied dans plusieurs mondes définit la façon dont je pose des questions aux gens. Je suis sûre de ça. Une programmation du Masque et la Plume, c'est ça, en fait. C'est de dire, on va vous parler d'un blockbuster, et puis ensuite, on va vous parler d'un premier film. On évolue quand même dans un monde et dans un milieu où la posture est vachement importante, quoi. L'air qu'on se donne...
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ah bah, ouais, la posture.
Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez dire dans le...
Il y a quand même tout un truc où « dis-moi ce que t'aimes, je te dirai qui t'es », ce qui est vrai. Hein. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais moi, j'ai passé quand même une partie de ma vie à dire que j'aimais des trucs alors que c'était pas le cas. C'était de la posture, en fait.
Et ça, c'est fini ?
Maintenant, j'ai la sensation d'avoir construit des trucs dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, même si, encore une fois, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qui me permettent d'assumer ça, en fait. De dire j'ai autant de plaisir à vous faire écouter Paul Mirabel que à vous faire écouter Franck Courtès ou Morgiève ou Léa Seydoux.
Ça, je vois que c'est très important pour vous, c'est-à-dire cette plasticité, cette capacité à pouvoir appartenir à plusieurs mondes et du coup à pouvoir à la fois rendre compte d'univers différents, de pouvoir, ça c'est très important pour vous. Et en même temps qu'il y a cette sensibilité accrue et pour les objets modestes et pour des œuvres qui vont parler de l'écart.
Et en même temps, c'est une vigilance parce que quand on exerce ce boulot, on est très vite dans un bocal. Donc j'ai une vigilance qui, j'espère, sera toujours aussi aiguë à justement pas être déconnectée, comme on dit, quoi. Mais c'est sûr que moi, quand j'interviewe des artistes et que, en fonction de la question que je m'en rends compte, à parfois c'est des tics, je me dis, merde, t'as encore posé cette question-là ou t'es venu sur ce sujet, mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche. Des gens qui ont déboulé à Paris, qui n'avaient pas les codes et voilà. Et ça m'intéresse, bien sûr. Je pense que quand on a vécu ça, on connecte tout de suite avec les gens qui ont vécu le même truc. Je sais que quand Benoît Magimel me raconte que quand il a déboulé dans le milieu du cinéma, il s'est rendu compte que là, d'un dîner, fallait pas dire bon appétit. Ah, ça me parle tellement.
Vous animez Le Masque et la Plume, c'est une émission de critique.
Ouais.
La place de la critique aujourd'hui, justement, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup changé? Parce que moi, j'ai la sensation qu'elle est différente, c'est-à-dire l'influence, l'impact, la façon dont on va recourir à la vie du critique, par exemple, aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années.
Oui, bien sûr, l'influence de la critique, en 20 ans, elle a particulièrement baissé.
Enfin, oui, avec les réseaux sociaux. Avec,
mais voilà, tout le monde est critique aujourd'hui. En tout cas, tout le monde peut prétendre l'être. Après, tout le monde ne peut pas prétendre avoir une culture littéraire, cinématographique ou théâtrale suffisante pour dire, ah ben tiens, telle œuvre est vraiment novatrice, parce que ça, compte tenu de tous les spectacles que j'ai vus, par exemple, j'avais jamais vu ça, c'est complètement inédit, voilà. Mais surtout, en fait, la critique telle qu'elle est pratiquée au Masque et la Plume me semble complètement essentielle et ultra contemporaine aujourd'hui, justement à l'ère des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, le principe de fonctionnement, c'est l'algorithme. Donc en fait, vous n'êtes conforté que dans votre propre goût, que dans vos opinions. Tandis qu'une émission comme Le Masque est censée, en tout cas je m'y attelle, et c'est pas fini, c'est vraiment work in progress encore cette émission pour les mois à venir, mais mettre en présence des points de vue différents, des personnalités de sexe, de sensibilité, de culture différentes, qui permettent un contraste des opinions. Et elles échangent et elles peuvent s'engueuler et tout ça avec de l'éloquence et de l'humour autant que possible. Mais l'idée est quand même d'une confrontation de points de vue.
Ouais, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, l'influence de la voix critique, elle a diminué d'une certaine façon de fait dans notre époque avec les réseaux sociaux, tout ça.
Mais elle est plus que jamais essentielle.
Mais elle est plus que jamais essentielle. Oui. Parce qu'il faut préserver des endroits où on peut, où il peut y avoir de manière civilisée des paroles contradictoires ou antagonistes qui peuvent se rencontrer.
Et alors, je vais utiliser un grand mot, mais en fait, ça s'appelle la démocratie. Mais en ce sens, je trouve que cette émission-là, elle est politique de ce point de vue. D'avoir un débat contradictoire qui ne soit pas de l'ordre du clash sur des objets culturels qui durent 45
en
minutes
public,
en public avec un goût de l'éloquence, de l'oral, de la parole qui se déploie. Et ben oui, de nos jours, je pense que ça me semble absolument essentiel.
M. Le goût de M.
Où est-ce qu'on va, Rebecca, là ?
Devant la bibliothèque.
Alors, la bibliothèque.
Ouais. Elle occupe tout le mur. Il y a tout un pan, évidemment, là, une bibliothèque musicale.
Ouais, il y a beaucoup de livres sur la musique.
Il y a beaucoup de livres sur la musique, forcément. Enfin, forcément, parce que j'aime ça et que ça m'intéresse, mais aussi parce que j'ai fabriqué des émissions dessus. Donc, le Gainsbook, qui est une bible. C'est un bouquin absolument génial.
Ouais.
David Bowie is Inside, qui était le catalogue de cette expo démente qui avait eu lieu à la Villette.
Ouais.
Bon, évidemment, Étienne Dao, A Secret Book, qui est très très beau. Voilà, sinon, il y a des pentes, évidemment.
Ça a été important pour vous ?
Ah bah oui.
Oui ? Lequel ?
J'ai lu King Kong Theory comme bien des jeunes filles. Et ça vous change une vie quand même, ça. De ce que c'est qu'être une femme et de ce qui vous détermine et de la liberté qu'on choisit de prendre. Enfin, oui, oui, ça a été super important. Même pour la musique, en fait. Parce qu'elle a des goûts qui sont pas forcément les miens, mais elle a écouté beaucoup de punk, ce qui moi, était pas forcément ma bande-son. Mais je m'y suis intéressée par son biais aussi. Et grâce à elle, j'ai lu Laurent Chalumeau. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses grâce à elle, cela dit.
Qui était au masque ?
Oui, que j'ai fait venir au masque. Ah bah, c'est marrant qu'on soit devant Despentes, parce que, en fait, Despentes a écrit la préface d'un recueil de textes de Laurent Chalumeau qui s'intitule « En Amérique ». J'ai lu un roman de Chalumeau que j'avais vachement aimé, qui s'intitulait, qui doit être là, « VIP ». J'ai fait un portrait de lui dans Éclectique, et oui, je l'ai fait entrer à la tribune du masque, parce qu'il avait un ton qui détonnait, selon moi.
Ouais. Rebecca Manzoni, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent ? Est-ce qu'ils sont importants pour vous ?
De moins en moins. J'accorde énormément d'importance à des choses qui, a priori, n'auraient pas de valeur. Enfin, là, je suis en train de regarder une planche de bande dessinée d'un ami qui est très, très proche. Je sais que c'est une planche qui a de la valeur, mais c'est des planches de Jean-Pierre Gibras. Alors, je sais que les planches de Jean-Pierre, elles se vendent cher, mais enfin, c'est évidemment pas l'enjeu. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est un de mes amis les plus proches, et que cette histoire qu'il a dessinée, cette histoire d'amitié, c'est un peu la nôtre. Donc, c'est très, 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 très important pour moi. Après, les objets que je vais aimer, c'est des dessins de mes filles, c'est un mot de mon mari, c'est des choses aussi complètement immatérielles, une musique. Moi, j'ai perdu mon père il y a 6 ans, et j'ai gardé des objets de lui. Et au fond, quand je retombe dessus, c'est à la fois extrêmement important, mais je me dis que c'est aussi assez dérisoire, en fait. J'ai gardé un vieux pull qu'il portait quand il faisait du bricolage. J'ai regardé une montre. J'ai gardé des pantoufles. Enfin, c'est complètement débile. Parce qu'il y a sa marque de pied dedans. Je sais absolument pas ce que mes filles feront de ça, par exemple. C'est important pour moi, mais c'est en même temps, c'est complètement dérisoire.
Le reste, finalement, c'est-à-dire peut-être l'importance qu'on accorde aux objets qui nous entourent, la table qu'on va acheter, le machin, le mobilier, ça devient de moins en moins important
pour
vous ?
Ouais. Oui, c'est comme toutes les postures. Hein. Je sais pas, il y a toute une période de la vie où on essaie de faire bien, quoi.
Ouais.
Ça, c'est pas on essaie de faire bien, mais ça fait bien. On est tous plus ou moins dans ce jeu. Mais ouais, plus les années passent, plus je...
Vous dites que c'est pas ça qui est important.
Non, tellement pas, tellement pas.
Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué.
Ah oui, vachement.
Vous aimez toujours la même chose. Vous aimez toujours Étienne Daho.
Oui, ça c'est, jusqu'à ma mort. Bien sûr, mais oui, ça a beaucoup évolué parce qu'au départ, j'avais des goûts qui étaient vachement façonnés par ceux de mon père. J'avais des goûts pour faire bien, donc forcément.
C'était pas vraiment les vôtres.
C'était pas vraiment les miens, non, c'est sûr. Donc oui, ça a évolué. Moi, j'ai deux enfants, deux filles de 10 et 15 ans, donc...
Vous font découvrir des trucs ?
Mais tellement, bien sûr.
Quoi, par exemple ?
Bah, la K-pop, qui est un continent bien plus vaste que ce que j'imaginais, pour laquelle j'avais une espèce de mépris à la con. Et alors, j'adhère pas à tout, mais je trouve qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Je pense à ça parce que ma fille aînée, elle est fan de ça absolue, et c'est un univers à part entière. Et en même temps, elle est pas dupe du caractère commercial de la chose, mais je découvre un continent, quoi. Et de fait, toute la culture de Corée du Sud.
Ouais.
Et voilà, si on n'est pas ouvert à ça, quand on a des
vous
enfants...
Vous aimez que ça bouge, que ça change, que ça évolue,
ouais,
que ça mute.
Oui, oui. Enfin, j'ai eu un père aussi qu'à un moment, quand j'ai balancé toute la chanson française dont je pouvais plus d'écouter, etc., que je me suis mise à écouter Joy Division, les Cure, etc., mon père disait ouais, c'est du boom tchak. je me suis dit jamais je ne dirais ça à mes gosses. C'est comme les gens aujourd'hui qui sont encore à dénigrer le rap. On se dit, en 2024. En fait, ceux qui dénigrent le rap aujourd'hui tiennent exactement le même discours que celui de leurs parents qui dénigraient le rock'n'roll, quoi. C'est pareil.
Quel type de goût vous plaise à vous? Dites-moi des mots. Dites-moi des trucs que vous aimez, des trucs que vous n'aimez pas.
Bah, je sais pas, c'est plus des noms d'auteurs ou d'artistes qui me viennent en tête,
ah, bah,
là.
Dites-moi.
Jean Echenoz, Pulp.
Ouais. Different Class.
Neil Hannon. LCD Sound System. Annie Ernaux. René Belletto. Brigitte Fontaine. Philippe Catherine. Claude Nougaro.
Vous avez des dégoûts, vous, ou vous réfléchissez pas comme ça?
Non, j'ai pas de dégoûts. J'ai plus des... C'est plus des réflexions qui vont me choquer, en fait, que je peux entendre à l'occasion.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
Pour moi, mes amis ont du goût parce que, justement, ils aiment en vrai.
Ah, voilà, ils sont pas dans la posture, là.
Bah ouais, pardon, hein, je reviens toujours. Mais moi, je, l'homme avec qui je vis, il est vraiment comme ça, quoi.
Ouais, ouais.
Il va... En fait, j'ai rarement... Je connais assez peu de gens aussi ouverts d'esprit... Avec
une intégrité, on sent.
Oui, je trouve, c'est une forme d'intégrité, de d'aimer pour de vrai.
Vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût? C'est possible pour vous, ça, ou pas?
Bah non, parce que je pense qu'en fait, je suis tombée amoureuse d'hommes dont j'avais envie d'embrasser les goûts.
C'était important.
Dans tous les sens du terme.
Ouais, bah, ouais, c'est mieux.
C'est non, mieux. Mais voilà. Bah, en tout cas, c'est vrai que... La musique a toujours beaucoup compté dans mes histoires d'amour, curieusement.
Alors ça serait quoi pour vous, Rebecca Manzoni, avoir du goût?
C'est être ouvert d'esprit, ne pas être snob.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.